Avant d'aborder la parole de ce jour, prions. Dieu notre Père, ouvre nos âmes à ta parole éternelle. Dans les contingences de nos vies, nous peinons parfois à tenir ferme. Que ta parole ce matin nous guide et nous affermisse dans notre foi. Envoie sur nous ton Esprit Saint pour nous aider à la comprendre et à la faire nôtre. Qu'elle vienne nous toucher, nous enseigner et nous encourager là où nous en avons besoin. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Notre première lecture se... Notre première lecture se trouve dans le livre du Siracide, du nom de son auteur Yeshua ben Sira. Il s'agit d'un des livres sapientiaux, c'est-à-dire qui vise à donner un enseignement moral. Il se trouve dans l'Ancien Testament, il était rédigé vers 200 avant Jésus-Christ. Nous lisons au chapitre 3 les versets 17 à 29. Mon fils, agis avec douceur en tout ce que tu fais et tu seras aimé de l'homme agréable à Dieu. Plus tu es grand, plus il faut t'humilier et devant le Seigneur tu trouveras grâce. Car grande est la puissance du Seigneur, et il est glorifié par les humbles. Ce qui est trop difficile pour toi, ne le recherche pas. Ce qui est au-dessus de tes forces, ne l'examine pas. Réfléchis sur les commandements qui t'ont été donnés. Tu n'as pas besoin des choses cachées. Ne t'acharne pas à des œuvres qui te dépassent. Ce qui t'a déjà été montré est plus que ne peut concevoir l'esprit humain. Car beaucoup ont été égarés par leur spéculation, leur imagination perverse a faussé leurs pensées. Le cœur endurci finira dans le malheur. Celui qui aime le danger y périra. Le cœur endurci sera accablé de peine. Le pécheur accumulera péché sur péché. À la détresse de l'orgueilleux, il n'est pas de remède, car la plante de la perversité est enracinée en lui. L'homme intelligent médite les proverbes dans son cœur, une oreille attentive. Voilà ce que désire le sage. Rendons gloire à Dieu.
Nous lisons la lettre aux Hébreux, chapitre 12, versets 18 à 24. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout tremblant. » Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Louange à toi, ô Christ. Nous lisons Luc, chapitre 14, versets 7 à 14. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit : Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire : Cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Et il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car il te sera rendu à la résurrection des justes. Louange à toi, Seigneur.
Merci au Dieu, car à tout moment dans nos vies, nous pouvons revenir au silence, au sans forme, à ce qui précède toute parole et tout acte. Nous pouvons revenir à toi pour nous baigner dans la source, pour reprendre vigueur, inspiration. Merci au Dieu pour ce que nous avons pu accomplir jusqu'ici, les actes que nous avons pu poser. Merci aussi pour tous ceux qui ont pris soin de nous, qui nous ont aidés, entourés par leurs paroles ou leurs actes. Tout cela est si innombrable, ô Dieu, que cela donne le vertige. Merci de pouvoir accueillir ton Fils Jésus-Christ, ses paroles et ses actes qui sont là pour nous inspirer, nous nourrir, nous aider à trouver notre chemin sur la terre. Au nom du Christ, amen. Nous pouvons nous lever pour les lectures qui nous sont confiées ce matin par l'Église parlent de notre manière d'agir dans le Siracide, d'agir avec humilité, pas avec dureté, pas avec perversité. Dans la lettre aux Hébreux, c'est plus étrange. On n'a pas à agir comme Moïse, faire des choses extraordinaires, mais à faire sentir cette nouvelle alliance que manifeste le Christ. Et dans l'évangile de Luc, simplement pour un repas, on voit que même un repas, ça peut être compliqué. Quand on veut se mettre devant, on nous dit non, mettons un peu derrière, ou bien... Si on ne fait que inviter les amis, c'est déjà pas mal d'inviter les amis, hein, parce qu'il y en a qui invitent même, qui font que travailler dans notre cher pays. Mais là, c'est comme s'il a dit, ne fais pas que ce qu'on a l'habitude de faire. Essaye d'élargir un peu ta manière de faire. Et donc, c'est tellement vaste, notre agir, c'est ce qui nous, on peut dire, c'est ce dont on va se rappeler de nous, c'est ce qui est notre manière d'être, c'est notre destinée, c'est d'agir. Et on ne sait pas toujours comment prendre cela, qu'est-ce qu'on fait vraiment. Le philosophe Ricoeur, il disait, l'agir, c'est comme une écriture. Ça va laisser un texte, donc votre manière de faire, elle est comme une écriture dans la vie qu'on va regarder, qu'on va recevoir. Et donc, c'est quelque chose de très important. Lui a eu malheureusement un enfant qui s'est suicidé, et c'est peut-être pour cela qu'il est revenu très profondément sur qu'est-ce que l'agir, pourquoi peut-être un fils fait tel acte, comment on gère cela, comment on se débrouille avec cette vie qui est compliquée. Un autre philosophe, Shankelevitch, lui disait, aussi un peu dans ce sens-là, il disait, attention, notre agir est irréductible. Une fois qu'on l'a fait, on ne peut pas revenir en arrière. Il dit, non, j'ai pas fait ça, ou bien j'ai pas dit ça. Une fois que c'est fait, hein. Et donc, on ne réalise pas toujours en se levant le matin que finalement, ce qu'on va faire dans la vie, c'est quelque chose d'assez, on pourrait dire, dramatique, beau. Il peut y avoir tous les qualificatifs, mais c'est vrai que ça va s'inscrire de manière irréductible. Même si on peut quand même revenir dessus, puisque quand on se repent, quand on repense, si on veut revenir, on ne peut pas revenir en arrière, mais quand même, suivant ce qu'on a fait, on peut s'excuser, on peut le transformer. Donc ce n'est pas absolument définitif, mais ça a quand même du poids. Mais donc attention à ce qu'on va dire, à ce qu'on va faire. Certains disaient même, c'est pas pour rien qu'il y a les contemplatifs ou les stoïciens, ils disaient allons sur la montagne, regardons ce qu'on fait, ou les contemplatifs qui disent ne vous précipitez pas. Et quand on regarde la vie du monde et les informations qu'on a bientôt plus envie de regarder, on se dit mais en tout cas l'agir des humains, l'agir de la société moderne, il est catastrophique, hein, puisqu'on voit qu'on va à la catastrophe. Donc on dit, si c'est pour faire ça à la Terre, si c'est pour faire ça aux humains, mieux vaut ne rien faire. Et donc, on ne sait pas par quel bout faire. Alors, est-ce qu'on abandonne tout? Et puis, quand on fait quelque chose, l'action de ce qu'on va faire, ça ne dépend pas que de nous, puisqu'il y a toute la société. J'ai beau vouloir faire quelque chose ou dire quelque chose, ça ne veut pas dire que l'entourage sera d'accord, hein. La première résistance est à la maison. Des fois, j'ai une idée lumineuse, puis je le dis à la maison, puis je dis non, ça va, mais tu rêves un peu, hein. Donc, l'agir ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi de ce qui nous entoure. Et donc, on va devoir s'arrêter un moment, et c'est vrai que prendre du temps pour méditer l'action de Jésus, parce que ça, c'est un autre auteur que j'ai beaucoup aimé, un Marcel Legault. Alors c'est un vieux livre, je ne sais pas si on le trouve encore, c'était un mathématicien français qui après, il était enseignant à l'université à Lyon, et puis à un moment il a dit, ben non, pour ce que je me sens appelé à faire, il faut que j'arrête d'enseigner les mathématiques, je vais devenir berger, et il est parti dans le Vercors, il s'est occupé de ses moutons, et il a beaucoup médité la vie de Jésus, et il a fait un lieu à Mirmande, en dessous de dans la près de Die, un lieu de méditation. Il retrouvait des gens, il a beaucoup aidé aussi des communautés religieuses, en particulier Mazi, pour leur aider à avoir un agir profond. Et lui, il disait, Jésus, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple de Superman? C'était pas Goldorak, c'était pas... vos références, c'était pas Goldorak, c'était pas l'homme araignée, je sais plus comment il s'appelle. Hein, Spider-Man. Donc lui, c'est pas que ça lui est tombé dessus depuis petit, puis qu'il était tout puissant. Lui, il insiste beaucoup sur l'humanité de Jésus, que Jésus a mûri son action. sa manière de faire, elle a pris forme peu à peu. Pour quitter le giron familial, pour quitter, on ne sait pas s'il devait être menuisier, j'en sais rien, mais en tout cas, il n'est pas devenu menuisier. Et déjà là, on voit que c'est beaucoup de nos actes, quand on arrive à l'adolescence, quand on devient un peu plus grand, on doit choisir des métiers, et puis soit on va à l'encontre des parents, c'est le drame. Quelquefois, moi j'étais à l'encontre, au début, mes parents n'ont pas du tout apprécié ce que je faisais. Après, je suis devenu pasteur comme mon père, donc là il aurait dû être enchanté, mais je ne sais même pas s'il était enchanté. Donc c'est compliqué. On peut dire comment l'entourage reçoit ce qu'on choisit de faire. Et on voit que Jésus, il a choisi de faire quelque chose de très particulier, puisqu'il a dit, ben, les actes, on peut dire, objectifs ou les actes utilitaires, le métier utilitaire, n'est pas suffisant. Il va falloir aller plus loin, élargir l'horizon. Quand il était avec ses amis pêcheurs, il a dit, ben, maintenant vous arrêtez de pêcher, vous allez être pêcheur d'hommes, vous allez aller vers un autre travail, enraciné dans l'être. Donc il va faire passer son entourage de l'avoir à un agir enraciné dans l'être. Et qui va être un agir qui sera particulier pour chacun. Donc il n'y a pas de... On ne peut pas lire la Bible et dire, ah ben voilà, j'ai lu la Bible, je sais ce que je dois faire aujourd'hui. Voilà, les 10 commandements sont très généraux. Il faut, voilà, respecter, aimer, mais ça ne va pas me dire si je dois manger une tartine ou deux tartines, ou si je dois dire ceci à ma conjointe ou à mes enfants ou cela. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous devez dire aujourd'hui. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que vous devez faire aujourd'hui. Et donc, c'est vertigineux. Et donc, on ne va pas essayer de le faire de manière trop légère, même si en même temps, il faut être léger aussi. Donc, on se dit, bon, alors, qu'est-ce qu'on fait finalement, hein? Mais on voit que Jésus, il a pris du temps, comme il prenait du temps pour répondre à ceux qui l'interrogeaient, et puis il a fait des choses qu'on ne faisait pas. Puisqu'il s'est entouré de femmes, il est devenu impur en parlant aux Samaritains, donc on voit qu'il a fait plein de choses qui ne se faisaient pas, par fidélité à ce qu'il sentait de Dieu en lui, du « je suis » en lui. Et donc nous-mêmes, nous sommes invités à faire le même chemin que le Christ a fait. Écouter la présence de Dieu en nous, écouter ce qui mijote dans nos désirs profonds et oser ce que notre cœur profond nous inspire. Et c'est des fois beaucoup plus fécond, beaucoup plus palpitant que juste faire ce qu'on a toujours fait. Mais c'est plus risqué aussi, puisque quelquefois je vais avoir des idées bizarres. Alors, il y a des choses toutes simples. Hein. Des fois, puis l'intuition ne fait pas tout. Mais par exemple, ce matin, je devais écrire une carte d'anniversaire à quelqu'un de ma famille. Puis souvent, on écrit, ben voilà, je vous souhaite bonne fête. Mais pourquoi pas vous arrêter un moment et dire, bon, qu'est-ce que mon cœur m'inspire de dire à cette personne? Est-ce qu'il y a une image qui me vient? Puis peut-être qu'il y a une image qui vous vient, puis vous pouvez essayer de l'écrire sur la carte, et vous verrez comment la personne le reçoit. Je l'ai fait une fois pour ma fille, elle m'a dit, ah ben, t'as dit que j'étais comme un tilleul, puis je ne sais pas pourquoi elle venait d'avoir quelque chose, une histoire avec le tilleul, je ne sais pas. Il y a des fois des coïncidences, donc on voit que des fois, l'inspiration ou les chemins non habituels vont conduire à des fécondités inattendues. Et certainement, vous-même, dans votre vie, vous avez eu des fois choisir des options que peut-être vous dites, mais j'étais un peu fou de faire ça, et puis elles ont été fécondes. Donc, Marcel Lego disait, la fidélité à votre profondeur est féconde. Si vous faites que obéir, si vous faites que suivre, eh bien, votre vie sera plate, elle n'aura pas de profondeur. Il disait, entre un enseignant qui travaillait, mais ça on le sait assez facilement, un enseignant qui travaille comme fonctionnaire, ou celui qui le fait habiter par la passion, parce qu'il habite, mais il va peut-être dire les mêmes mots, il va peut-être avoir exactement le même horaire, mais pourtant, sa manière d'être au monde va avoir une fécondité très différente de celui qui le fait de manière fonctionnaire. Et donc, on a chacun le défi d'entrer dans ce chemin de l'être et d'essayer d'être inspiré. Et on voit que ça demande un nettoyage. Ça, c'est la psychologie d'aujourd'hui qui nous a montré que beaucoup de personnes qui sont dans la spiritualité, dans la religion, en fait, ils font des choses horribles, comme on voit encore aujourd'hui. Donc, on voit que c'est pas parce qu'on le dit, souvent on fait le contraire. Et ça, ça joue pas. Et c'est souvent les psychologues quand même qui nous ont dit, là, il y a quelque chose à travailler, vous devez un peu nettoyer votre histoire de famille, vos blessures, pour que vous ne soyez pas pervers, hein, pour que vous ne fassiez pas le contraire de ce que vous dites. Comme on voit Jésus qui critiquait les pharisiens, il disait, ça sonne faux, ça sonne vide. Vous dites, mais vous ne faites pas ce que vous dites. Et donc, autant ne rien faire, autant aller dans la forêt, s'arrêter un temps. C'est pour ça qu'il y a les retraites, les moments de contemplation, les moments où on doit refaire le point, écouter ce que notre entourage nous dit. Je me disais, ça peut être intéressant que vous allez auprès de quelqu'un. Mais l'entourage, c'est difficile. Parce que si vous demandez à votre conjoint, à votre enfant, qu'est-ce que tu penses de ma manière de faire ? Attention, est-ce qu'on ose lui demander ça ? Moi, je n'ai pas encore demandé à ma femme, il faut que je lui demande, mais... Parce que, en fait, le conjoint ou l'enfant est partie prenante, il n'est pas neutre. Si vous allez voir un thérapeute, en général, il vous dira, moi, c'est bien, il a plutôt encouragé, ou dira ça à réajuster, mais il est hors de l'histoire, donc c'est plus paisible. Celui qui est de la famille, ce n'est pas toujours neutre, mais n'empêche quand même, il va sûrement nous dire quelque chose qui peut être intéressant. Moi, quelqu'un me dira, il t'en fait trop, ou bien tu vas un peu trop vite, t'es un peu trop cracra, ou je ne sais pas. Ben, il dira, lève un peu le pied, vas-y un peu plus mollo, prends ton temps hein, pour accomplir. Alors voilà, on est là, on a l'ouvrage sur le métier, heureusement, on peut quand même recommencer. Donc, il ne faut pas dramatiser. Hein. C'est comme quand on accompagne les enfants. S'il fait une erreur, normalement, on ne doit pas dramatiser. Donc, pour nous-mêmes non plus. Hein. Donc, on sait qu'on ne va pas y arriver du premier coup. On sait que tout ne dépend pas de nous. Donc, on est obligé de laisser faire, de nous abandonner, de nous interroger. Mais qui c'est qui agit en moi ? Est-ce que c'est mon histoire de famille ? Est-ce que je laisse un peu une inspiration plus vaste ? Est-ce qu'il y a de l'infini qui se dit dans ma manière de dire ou de faire ? Donc, ça demande de l'humilité aussi, comme Siracide disait, de l'humus. On va retrouver la terre, prendre le temps, pas se prendre la tête, mais quand même oser essayer. Amen.